Alors, les personnes, c'est juste une annonce, qui n'ont aucun problème avec leur vie de prière, peuvent quitter la salle maintenant, parce que je crains que cette prédication soit pour eux d'un ennui absolu. Je suis un peu rassuré, là. Je vois que je ne suis pas seul à avoir des problèmes avec la prière. Allons-y. On va s'intéresser, on a déjà commencé à le faire avec Myriam, on va s'intéresser aujourd'hui à la prière parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse de la prière, elle est un aspect central, vital de notre relation avec Dieu. Prier, c'est donner forme et vie à notre relation avec Dieu. Et je vous invite ce matin à faire un parcours, on va dire, plus méditatif que prédicatif, je ne sais pas comment il faut dire, ou théologique, je ne sais pas. On va faire un parcours dans quelques-uns des psaumes de David. On ne va pas mettre seulement notre intelligence à contribution, mais aussi notre sensibilité, notre corps, nos voix. On va se mettre ensemble à la recherche de notre prière si nous l'avions perdue en chemin. Ça vous dit ? Déjà, rien que ce mot, la prière, inspire pour nombre d'entre nous un questionnement, une gêne, et peut-être même des inquiétudes secrètes. J'entends souvent dire « je ne sais pas prier ». Et pour ces personnes, quand vient leur tour dans un cercle de prière, quand tout le monde a prié, qu'il n'y a plus qu'elles, et que le silence s'installe et devient pesant, ben c'est à chaque fois une épreuve. Alors on va commencer par travailler un petit peu l'apaisement de nos inquiétudes sur la prière, en priant avec David et avec son psaume 31. Alors on reste assis, et puis on va chanter « Je me confie en toi », qui est le psaume 31. Je peux passer une diapo, s'il vous plaît ? Merci. Parmi nous disent « je ne sais pas prier », j'ai envie de leur demander « mais qu'est-ce que C'est quoi prier ? Est-ce que c'est une attitude, un exercice avec sa gestuelle, avec son code, avec ses expressions ? Est-ce que c'est une liste de courses qu'on envoie à Dieu ? Est-ce que c'est un exercice de concentration ou de méditation sur Dieu ? Est-ce que la prière, c'est une émotion que l'on doit ressentir et exprimer ? Qu'est-ce que c'est, la prière ? Et en me posant ces questions, je me rends compte que tout pasteur que je suis, je ne sais pas prier. Pour ma défense, je dirais que si je savais prier, il n'y aurait pas dans la Bible 150 psaumes pour m'apprendre à prier. S'il était si naturel pour le disciple, le croyant, s'il était si facile de prier, pourquoi les disciples viendraient-ils trouver Jésus ? En lui disant, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus ne leur a pas répondu, mais non, mais ça va très bien, vous inquiétez pas. Non, il leur a répondu en leur enseignant une prière pour les aider, le Notre Père. Même l'apôtre Paul, monsieur, je sais tout, puissant théologien, écrit aux Romains son incapacité à prier comme il faut, il précise. Nous ne savons pas prier comme il faut. Et les psaumes sont là justement parce que nous ne savons pas prier. Ils nous donnent des mots, ils rejoignent nos émotions, nos questions, ils rejoignent nos ras-le-bol, nos angoisses, nos joies aussi. Les psaumes nous prêtent des mots parce que nous ne trouvons pas les nôtres, ou parce que nous répétons sans cesse les mêmes. Ça aussi, ça arrive beaucoup. Vous avez remarqué que les psaumes sont souvent écrits à la première personne du singulier. Mais c'est un « je » qui est en réalité plus grand que la personne qui prie, David, en l'occurrence, beaucoup dans le psautier. C'est un « je » qui nous rejoint. C'est un jeu qui dit « nous ». Et ce matin, nous l'avons très bien perçu. Ce jeu est devenu un « nous » d'assemblée. Et on va essayer de mettre ça en pratique. Un exemple avec le psaume 13. Peut-être avez-vous été un jour gravement malade. Peut-être avez-vous accompagné un ami, un parent dans une grave maladie. Vous savez, même l'aumônier des hôpitaux, le professionnel de l'hôpital, ne trouve pas les mots devant la souffrance face à la solitude intérieure du malade. Mais il peut se produire une rencontre entre le malade et Dieu. Et le psaume 13 en est un exemple qui m'a beaucoup touché. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Je vais projeter le psaume 13. Et en même temps, je vais le prier librement, vous voyez, avec mes mots. À la manière d'un malade qui ne sait pas s'il va s'en sortir. Seigneur, tu continues à m'oublier, mais jusqu'à quand ? Tu me caches ton visage, mais jusqu'à quand ? Je me trouve seul ce soir dans cette chambre d'hôpital, j'y suis depuis des semaines. Et tous les jours, je me fais du souci. Je suis intubé de partout. Mon cœur est rempli de chagrin. Jusqu'à quand ça va durer ? Ce cancer semble plus fort que moi. Jusqu'à quand vais-je pouvoir tenir ? Seigneur mon Dieu, regarde-moi, réponds-moi. J'entends les bips des machines de réanimation. Je vois le visage fatigué des personnels soignants, la nuit, le jour. Éclaire mes yeux de ta lumière. Sinon, je vais m'endormir dans la mort. Sinon, la maladie va finir par crier « Je l'ai vaincu !» Et si je tombe, la mort aura-t-elle eu une fois de plus le dernier mot ? Moi, il n'y a qu'une chose dont je suis sûr, c'est ton amour. Tout va mal dans mon corps, mais mon cœur est joyeux parce que tu me sauves. Oui, je veux chanter le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Voyez comment ce psaume 13, qui est le psaume d'un autre, peut devenir le nôtre. Il est là précisément parce que nous ne savons pas prier. J'invite maintenant à nouveau tous les handicapés de la prière qui ont eu la simplicité et l'honnêteté de rester assis dans cette pièce à faire une seconde expérience, mais avec le psaume 8 cette fois. C'est la prière du nourrisson. Celui qui, par définition, le nourrisson, ne sait ni parler ni prier. On est d'accord ? Quoique. Et nous nous levons pour chanter ce psaume 8 dans une version très enjouée. Les musiciens sont là pour nous le faire vivre joyeusement. C'est Éternel, notre Seigneur. Levons-nous et chantons la prière du nourrisson. Ceux qui ont du mal à prier disent aussi souvent « je n'ai pas les mots ». Et aussi, ils disent qu'ils manquent de concentration. Ils font silence. Ils se disposent intérieurement. Et puis, il arrive des pensées. Des pensées qui commencent à occuper l'espace intérieur de la prière silencieuse. On était parti pour prier et on se retrouve à faire le programme de la semaine. Ou à ressasser des idées noires. Comme si le silence intérieur n'existait pas. Alors, on se bagarre contre soi-même, on cherche à entrer, à reconstruire cette bulle étanche où on va être enfin seul avec son Dieu. un espace de prière coupé de tout, de ses pensées, de nos pensées, aussi de notre corps. On est finalement, on cherche à se couper de nous-mêmes pour prier Dieu. Ce qui est une aberration et ce qui est l'explication même de l'échec à notre prière. En réalité, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour ne pas parvenir à prier. Qui a dit que nos pensées, mais aussi notre corps, ne devaient pas participer à notre prière? Intéressant. Dans l'Ancien Testament, cette vision, vous savez, très désincarnée de la prière, elle n'existe pas. Le mot hébreu qui est traduit en français par le mot âme, l'âme, avec la circonflexe. Il se dit en hébreu par un mot qui se dit nefesh. Vous savez ce que ça veut dire, la nefesh, littéralement? Ça veut dire la gorge. L'âme. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait qui s'élève là au-dessus de notre tête, là, qui regarde notre corps de haut, quelque chose d'immatériel, non. C'est quelque chose qui passe par là, ou qui ne passe pas. Ça dépend des fois. Hein. L'âme. Et idem pour le mot hébreu qu'on traduit de manière aussi très abstraite par le mot esprit. C'est littéralement, en hébreu, l'esprit, c'est le souffle. En hébreu, c'est le mot lui-même évoque le souffle, c'est « ruah ». Et en français aussi, le souffle. Et nous, on a dit « esprit ». Ah, c'est un peu conceptuel, mais ça ne dit plus cela. La place du corps. Le corps est pleinement partie prenante dans la prière biblique. C'est un allié, le corps, et non pas un ennemi de la prière. D'ailleurs, on peut fermer les yeux. Le corps agit. On joint, on ouvre les mains, on les élève. Certains même peuvent se mettre à genoux. D'autres allument une petite bougie. Parce qu'en la regardant, quelque chose s'apaise en nous. Notre regard sur quelque chose de doux, de fragile, de beau, nous porte à la prière. Le corps est partenaire de la prière. Essayons de lui accorder sa place, de nous réconcilier avec lui à ce moment-là. Si vous n'êtes pas encore convaincu, on va lire le psaume 38 qui articule justement la prière et le corps d'une manière tout à fait surprenante.
Seigneur, tu es en colère contre moi, mais ne me condamne pas. Tu en as assez de moi, mais ne me punis pas. Oui, tes flèches m'ont touché et ta main m'a frappé à cause de ta colère. Tout mon corps est malade à cause de mon péché. Rien n'est bon dans mes os. Oui, mes fautes dépassent ma tête. Elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde. Mes plaies remplies de pus sentent mauvais. Tout cela à cause de ma bêtise. Je suis abattu, complètement découragé. Je passe mes journées dans la tristesse. Mes reins sont brûlants de fièvre. Tout mon corps est malade. Je suis sans force, complètement brisé. Mon cœur souffre et je me plains. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Ma plainte n'est pas cachée pour toi. Mon cœur bat violemment. Mes forces s'en vont. Même la lumière de mes yeux a disparu. Mes amis, mes voisins, mes forces reculent devant mes plaies. Mes parents restent loin de moi. Moi, comme un sourd, je n'entends pas. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et qui ne répond rien. Seigneur, je compte sur toi. C'est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu.
Chantons le psaume 34 en restant assis, tournez les yeux vers le Seigneur. Il y a un autre obstacle assez courant à la prière, c'est ce sentiment d'indignité. La prière, c'est bon pour les saints de l'Église, les pasteurs, les grands serviteurs de Dieu. Mais moi, je ne me sens pas à la hauteur de ce dialogue intime avec le Dieu très saint. J'ai trop de choses qui ne vont pas dans ma vie, dans mon âme. Je préfère garder le silence. Eh bien, on trouve justement dans les psaumes de David la prière de l'indigne. Il n'y a pas que de jolies prières toutes joyeuses et toutes propres sur elles dans la Bible. On y trouve aussi des prières avec des mots crus, des mots vrais, des mots choquants qu'on n'entendra jamais dans une bonne réunion de prière de nos églises. Ces mots sont pourtant là pour nous aider à prier. Parce que pour prier, nous ne sommes pas obligés d'être hypocrites, de montrer une face de nous très différente de ce que nous sommes au-dedans. Et grâce aux psaumes de la Bible, nous pouvons venir à Dieu tel que nous sommes. Il nous ouvre un chemin pour aller vers Dieu avec notre colère, avec notre violence, avec notre péché, avec la face sombre de notre existence. Parce que c'est justement dans cette relation vraie avec Dieu que tout ce qui ne va pas en nous pourra trouver non seulement des mots, mais aussi le pardon et la force de changer. C'est pour ça que les psaumes disent parfois des horreurs. Ces prières ne sont rien d'autre que les nôtres, si on veut bien les accepter et les dire. Regardez cet extrait du psaume 58. «
Oh Dieu, ces gens-là sont comme des lions. Casse leurs dents, Seigneur. Brise leurs mâchoires. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule. Que leurs flèches soient sans force. Qu'ils ressemblent à la limace qui fond en avançant, comme l'enfant mort-né qui ne voit pas le soleil. Dieu les punira sévèrement. Il les fera mourir. Alors, celui qui obéit à Dieu se réjouira, car la justice a été rendue.
En restant assis, nous chantons le cantique « Dieu, ta fidélité ». Un mot encore pour celles et ceux qui ne trouvent pas les mots pour prier. Ça ne vient pas. Leur dire que le silence peut être aussi une prière. Dans le psautier, je lis « Pour toi, le silence est louange ». Psaume 65. Dans le psaume 37, garde le silence devant Dieu et espère en lui. Il ne faut pas craindre le silence devant Dieu. Le silence, c'est la prière de la prière, écrivait un théologien. Mais la prière, cela passe aussi par des mots et des demandes. Mais quelles demandes ? Mes demandes sont-elles légitimes, conformes à ce que Dieu attend? Les amis, au lieu de se prendre la tête, pour parler un peu de manière triviale, de se prendre la tête pour finalement rester dans un silence abattu, un silence coupable, eh bien, moi je vous invite à laisser monter vers Dieu, vos demandes en vrac. Allez-y, comme elles viennent. Un peu comme celle de David qui voulait que Dieu casse la figure à ses ennemis. Ben oui, casse-leur les dents. Ou au contraire, celle implorante pour une personne malade, comme le psaume 13 lu tout à l'heure. Pour une réussite à un examen. Pour une guérison, pour tout ce que vous voulez. Parce que devant Dieu, oui, nous sommes un peu comme des enfants qui demandent plein de choses à leurs parents, surtout quand on fait les courses. C'est finalement les parents qui décident. Alors n'essayons pas de formuler la parfaite prière mais prions plutôt librement. Parce que ce qui est essentiel au fond, c'est pas d'être théologiquement juste dans sa prière. Ce qui compte au fond, c'est d'être en relation avec Dieu. Et lui, Dieu, notre Père, saura nous dire « Bon, allez, ça suffit maintenant. » Ou il saura nous dire aussi « Je t'entends, mon petit. Ne t'inquiète pas. Je vais répondre. » Et puis, peut-être que vous connaissez le pense-bête de la prière, non ? Bon, alors allons-y, hein, si vous ne connaissez pas le pense-bête de la prière. Vous avez le petit doigt, l'auriculaire, hein, c'est ça ? C'est, on va dire, c'est le doigt de la prière pour soi. Puis vous avez l'annulaire, qui est le doigt de la prière pour les autres. Puis vous avez le majeur, c'est la prière de la louange, Alléluia. Puis vous avez l'index qui dit merci. Et vous avez le pouce. Vous savez, le pouce, lui, il touche les... C'est le seul vraiment qui arrive à toucher les quatre autres. Hein. Ben lui, il va dire pardon. Parce que dans notre louange, dans notre demande, dans notre relation aux autres, on a toujours besoin de demander pardon à Dieu. Et puis, vous avez aussi une dernière chose dans la main, c'est la paume, et la paume de la main, elle symbolise maintenant l'offrande, le don, le partage. Eh bien, je vous invite à finir maintenant notre méditation sur les psaumes. On va finir sur la paume et l'index, si vous voulez. Sur le merci et l'offrande. Alors, pas celle qui a été déjà collectée dans les rangs, l'offrande du cœur, c'est un peu la même d'ailleurs. Avec le psaume 16.
Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang aux faux dieux, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas.
Voilà, ce voyage à travers le livre des psaumes à la recherche de notre prière, si nous l'avions un peu égaré en chemin, arrive maintenant à sa fin, mais chacun pourra poursuivre ce voyage pour lui-même, dans la solitude et dans la foi. Je nous espère simplement à nouveau riche de mots, d'émotions, riche de vérité aussi pour dire Dieu, pour dire à Dieu ce que nous sommes, ce dont nous avons besoin, pour lui parler de nous, mais pour lui parler aussi des autres, de notre monde en souffrance, pour lui demander pardon et pour lui dire merci, pour lui offrir à nouveau nos vies. Amen.